Vous écoutez RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hilke.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la curiosité, le rendez-vous des passionnés sur RTL. Et comme vous le savez, Sidonie...
Les gens passionnés sont passionnants, c'est
ça. Bravo, c'est la formule,
ah, on l'a bien répété. Bonjour Thomas, bienvenue à vous. Ici, on apprend en s'amusant l'aventure, la science, l'histoire, les grands destins, les sagas musicales. Rien n'échappe à notre gourmandise et notre curiosité.
Chaque jour sur RTL, c'est de 14h à 15h et on aime dévoiler les secrets et vous emmener dans les coulisses de lieux prestigieux.
Justement, on sera servi tout à l'heure avec une promenade très privée dans le Louvre. Le Louvre que le public ne voit jamais. Un escalier pour des chevaux, tiens, je crois que ça c'est une idée de Napoléon III, évidemment. Un abri anti-atomique ou encore un atelier où l'on reproduit les effets du temps sur les œuvres d'art.
Allez, tout de suite, on s'envole pour un long voyage. Ça vous dit de vivre sur la planète Mars ?
Je suis prête.
La curiosité est un vilain défaut.
Elle porte le nom du dieu romain de la guerre.
Ce sont les eaux de Mars.
Cette planète rouillée dans le ciel étoilé est depuis des siècles la source d'interrogation. Mars, la planète rouge, détient peut-être la clé de notre avenir et celle de notre passé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour Cyprien Versieux.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes scientifique, vous avez passé un an sous un dôme qui reconstituait, on va dire, la promiscuité, l'isolement d'un groupe qui aurait vécu sur Mars, sur la planète rouge. On va se situer d'abord pour commencer, géographiquement, c'était sur Terre évidemment. Il était où ce dôme et à quoi il ressemblait ?
Alors, il était sur le volcan Mauna Loa, à Hawaï, à 2 km d'altitude. Il était dans un paysage qui ressemble beaucoup à celui de Mars. Donc des volcans énormes avec de la roche volcanique rouge à perte de vue. Et le dôme, c'était un dôme blanc, un peu comme un ballon de foot coupé en deux, de 11 mètres de diamètre.
11 mètres de diamètre.
Vous savez combien de mètres carrés à l'intérieur?
Bah, au sol, ça faisait à peu près 90 mètres carrés. Et puis, il y avait une petite mezzanine qui faisait à peu près la moitié de la surface.
Il y avait des fenêtres? est-ce qu'on voyait la lumière?
Vous aviez des poignées pour sortir?
Alors, il y avait deux petits hublots qui faisaient en gros la taille d'une pizza.
Ah, oui, c'est pas peu.
Beaucoup. Non, c'était pas beaucoup.
Vous étiez nombreux à vivre sous ce dôme, Cyprien Verseux? 6 dans 90 mètres carrés. Ah oui, vous étiez quand même assez confinés. Des garçons et des filles?
Des 3 hommes et 3 femmes, oui.
Pourquoi 3 hommes et 3 femmes? Pour former 3 couples, potentiellement?
C'est pas de la télé-réalité, non, on en parlait hier dans l'émission.
Ça pourrait être des hommes ensemble et des femmes ensemble, aussi, oui.
Ça aurait pu, ouais, mais c'est simplement parce que les personnes qui sont sorties de la sélection ont été moitié homme, moitié femme. Alors c'est plutôt bien tombé, mais c'était pas voulu. Donc on sait que dans ce genre de mission, les meilleures équipes en général, c'est pas des équipes d'hommes ou des équipes de femmes, mais c'est des équipes mixtes.
Et alors justement les chambres, vous aviez votre petit espace à vous, alors c'était des grandes chambrées avec des lits superposés. On veut tout savoir, on est curieux.
Alors on avait tous une petite chambre qu'on appelait un compartiment individuel, et donc c'est après 4 mètres carrés sous un plafond incliné, avec un tout petit lit, une place et un tout petit bureau. Donc c'était pas énorme, mais c'est un endroit où on aimait bien se retrouver de temps en temps, parce que c'est le seul endroit où on pouvait s'isoler.
Et oui, et on va voir que c'est une dimension vraiment essentielle de ce séjour, on va dire, de 12 mois sur Mars. C'était quoi justement l'objectif de cette mission? Tester votre capacité à vivre ensemble, à la cohésion du groupe?
Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de voir quelles étaient comment est-ce que les conditions de vie d'une mission sur Mars influençaient sur la cohésion, les performances et la psychologie en général d'un équipage. Et donc on vivait comme si on était sur Mars, par exemple, on reproduisait le confinement, donc on était toujours soit à l'intérieur du dôme, soit dehors, parce qu'on sortait à peu près une ou deux fois par semaine, mais quand on sortait, on avait des combinaisons spatiales, et donc on n'était jamais exposé à l'air libre. Pendant un an, on n'a jamais senti le vent, par exemple.
Toujours de l'air en boîte.
C'est joli ça. Cyprien Verseux, vous publiez Vivre sur Mars, vos aventures aux éditions Michel Lafon. C'est quoi votre premier sentiment quand vous passez la porte de ce dôme et que vous savez qu'elle va se refermer derrière vous et que vous en prenez pour un an?
C'était un moment qui était très intense parce que avant qu'on entre, il y avait beaucoup de scientifiques, beaucoup de journalistes, donc il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Et puis on est entré, on a fermé la porte et d'un coup c'était complètement silencieux. Et on s'est regardé, on a regardé autour de nous et on savait que pendant un an, ça serait juste tous les 6 et toujours à cet endroit-là.
Et vous les connaissiez avant, ces 5 autres?
Alors j'en connaissais 2 avec qui j'avais fait une autre mission avant. On avait passé 2 semaines ensemble dans le désert, dans l'Utah. Et les autres, je les avais rencontrés pendant la sélection. On avait passé notamment une semaine ensemble dans les montagnes rocheuses.
La première...
Donc ça aussi, c'était terra incognita, hein, la perspective de rencontrer quatre personnes que vous connaissiez pas, parce que moi, ça m'aurait un peu fait flipper de me dire j'ai passé un an avec eux.
Le premier réflexe, quand ça nous arrive, c'est prendre son téléphone et passer un petit coup de fil aux proches, à la famille. Et là, vous aviez le droit ?
Non, on n'avait aucune communication directe. Donc pas de téléphone, pas de Skype, pas de Facebook, de WhatsApp.
Un petit internet quand même, des mails.
On n'avait pas internet. On pouvait communiquer avec des emails, mais qui avaient un délai de 20 minutes à l'envoi et à la réception. Donc en fait, quand on envoyait un mail à quelqu'un, on savait qu'on n'aurait pas de réponse avant au moins 40 minutes.
Parce que ça, c'est le délai qu'auraient des astronautes sur Mars, c'est ça ? Et est-ce qu'il est fixe, ce délai ?
Non, en fait, comme les deux planètes bougent l'une par rapport à l'autre, la distance change et un message met en gros entre 3 et 23 minutes à faire le trajet. Mais pendant la mission, on s'était fixé sur 20 minutes, qui est proche du maximum de distance.
Et cet isolement, il vous a pesé dès le début ou ça vient au fil de l'année, en fait ?
Je dirais que ça, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas que ça augmente progressivement pendant l'année, mais il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, quand quelque chose se passe dans nos familles. C'est-à-dire qu'il y a un de mes proches, par exemple, qui a subi une agression et qui s'est retrouvé dans le coma et qui en est sorti dans un état assez critique. Et c'est arrivé juste avant Noël. Du coup, au lieu de fêter Noël, ma famille était à l'hôpital. Et je me sentais presque coupable de ne pas pouvoir être là pour eux. Je ne pouvais même pas les appeler. Et c'est dans ce genre de moment que c'était le plus difficile.
La difficulté, c'était peut-être aussi de ne pas savoir ce qui se passait en France, les grands événements qui se sont passés en France et dans le monde. Et puis alors, il y a aussi les trucs basiques du quotidien. Par exemple, l'eau, elle serait rationnée sur Mars. Alors vous êtes lavé comment ? Réponse dans un instant sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
Je m'appelle Marc Watney. Je suis toujours en vie.
RTL.
Comme vous le voyez, j'ai aucun moyen de contacter la NASA. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours.
La curiosité est un vilain défaut.
Marc Watney est toujours en vie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans ta face, Neil Armstrong.
Matt Damon nous a bluffé dans le film Seul sur Mars. Un homme seul ou une femme seule pourrait-il survivre sur la planète rouge ? C'est l'une des questions à laquelle la mission de notre invité a peut-être permis de répondre. Cyprien Verceux, je rappelle que vous avez passé un an sous un dôme situé à Hawaï pour reconstituer la vie des astronautes confinés sur Mars. Est-ce que vous aussi, vous avez fait pousser des patates comme le personnage de Matt Damon ? Ça avait l'air bien bonne, même si pas facile à faire pousser.
Alors, on n'a pas fait pousser de patates, et certainement pas comme Matt Damon. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, je rappelle que Matt Damon utilisait ses excréments comme engrais.
Oui.
Mais nous, j'utilisais des systèmes hydroponiques, donc en fait sans sol, mais avec de l'eau qui contenait des nutriments dans lequel les racines des plantes plongeaient.
Donc vous avez fait pousser des pommes de terre et pas que ?
Alors, c'était pas des pommes de terre, c'était de la salade et tomates cerises surtout. Maintenant, c'était très peu. C'est-à-dire qu'on a eu par exemple, en moyenne, je pense qu'on avait à peu près une salade à se partager pour 6 tous les 2 mois, grosso modo.
Ah oui.
Et notre première récolte de tomates cerises. C'était une tomate cerise par personne.
Ah oui, ça apprend vraiment la faim, on va
donc
dire.
Ça veut,
manger, quoi.
Ça veut dire qu'il fallait avoir autre chose, quoi, parce que sinon vous n'auriez pas survécu.
Ça valait mieux, ouais. On avait surtout de la nourriture lyophilisée. Donc on avait des cubes de jambon déshydraté, on avait des légumes déshydratés, on avait des œufs en poudre, du lait en poudre.
Ça se mange comment ? Avec de l'eau, c'est ça ?
Ouais, ça, c'est, on le réhydrate et puis on mange, quoi.
Sauf que l'eau, elle est rationnée sur Mars. Donc comment vous faisiez ?
Bah on avait pour la nourriture on n'a pas tellement le choix, c'est-à-dire qu'il fallait remettre pour la boisson et la nourriture on rationnait pas l'eau.
Ouais.
Par contre on la rationnait sur la douche. On prenait à peu près 2 douches d'une 30aine de secondes par semaine pour faire la vaisselle.
Faut être efficace.
On utilisait juste pour faire la vaisselle on utilisait juste quelques centimètres d'eau au fond d'un seau pour faire la vaisselle de la journée. Et puis on rinçait pas, c'est-à-dire qu'on savonnait et puis après on prenait un torchon, on essuyait le savon. Donc on économisait l'eau au maximum dans toutes les autres utilisations.
Quand vous nous racontez là, Cyprien Verceux, ces repas lyophilisés, est-ce que vous avez encore le goût qui vous revient ?
Bah du goût, il n'y en avait pas beaucoup. Donc
bah, Et alors du coup, ça fait quoi ? Quand vous sortez, je ne sais pas, le premier fruit frais, le premier légume digne de ce nom ?
Quand j'étais dans le dôme, en fait, ça ne m'a pas tellement manqué. Disons que je n'avais pas d'envie criante de bœuf saignant ou de fruits frais. Peut-être parce que j'étais un étudiant fauché pendant des années et qu'en comparaison, dans le dôme, c'était pas si mal. Mais je me souviens que quand je suis sorti dans le dôme, la première chose que j'ai mangée, c'était une tranche d'ananas fraîche. Mais c'est vrai que j'avais un peu oublié le goût que ça avait, quoi. Je m'étais habitué au goût, plutôt au manque de goût des aliments en longue conservation. Et j'avais oublié la stimulation sensorielle qui était donné par un fruit frais.
Cyprien Verceux, vous publiez Vivre sur Mars aux éditions Michel Lafon. Vous nous parliez de la communication qui était très rare avec l'extérieur. Vous étiez coupé du monde. Par exemple, comment vous étiez au courant de l'actualité? Il y a eu par exemple les attentats du 13 novembre pendant votre enfermement dans ce dôme. Est-ce que vous avez été au courant le jour même? Est-ce que vous avez pu réagir? Est-ce que vous avez pu être auprès de vos proches d'une certaine manière?
Alors l'information, on avait très peu parce que puisqu'on n'avait pas Internet simplement, et parfois on était au courant de certains événements parce que les gens nous prévenaient par email. Maintenant, les gens nous prévenaient de ce qu'ils pensaient être important, donc c'était surtout des nouvelles liées à l'exploration spatiale ou des nouvelles très graves comme les attentats. Pour les attentats du 13 novembre, je me souviens que je l'ai su. Alors c'est le matin, la fin de matinée pour nous, donc le soir en France, et je descendais l'escalier du dôme. Et je voyais mes coéquipiers qui chuchotaient. Et puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Cyprien, faudrait que tu regardes tes emails ». Donc j'ai regardé mes emails, j'ai trouvé un message d'une amie qui me parlait justement de tirs dans la foule, de prise d'otage, de mort, etc. Et c'est dans des endroits que je connaissais très bien, donc ça m'a fait bizarre. J'ai pas pu contacter mes amis ou ma famille parce que j'avais pas le téléphone. Donc j'ai renvoyé un mail, mais je savais que j'aurais pas de réponse avant au moins une heure après. Et puis c'était la nuit là-bas, donc probablement je n'aurais pas avant le lendemain, ce qui a été le cas. J'ai demandé des informations à l'équipe d'appui à la mission, mais à cause du délai, ça a mis plus d'une heure à arriver. Et quand on m'a répondu, c'était très peu d'explications. Simplement, on me disait qu'il y avait encore plus de morts et que les prises d'otages étaient encore en cours. Et donc j'ai posé des questions, mais à chaque fois, il fallait plus d'une heure pour avoir la réponse. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti le manque d'Internet et de téléphone.
Ça sert aussi à ça de simuler une mission sur Mars. Quel impact psychologique, comment les relations là, entre ces trois hommes et ces trois femmes se sont passées pendant un an de confinement? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite sur RTL. Restez avec nous dans la curiosité.
On est bien entre curieux. RTL Midi, Stéphane Carpentier, Christelle Rebière.
Plus que jamais, l'interactivité est au cœur de RTL.
Vous êtes nos experts du quotidien et nous comptons sur vous au 3210 et sur les réseaux sociaux pour échanger sur les thèmes qui vous intéressent.
Débattre et témoigner pour mieux comprendre l'actualité, c'est dans RTL Midi.
RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier. La curiosité est un vilain défaut.
Vous rêvez peut-être d'aller vivre sur Mars. Notre invité, lui, c'était du réel. Il a reconstitué avec 5 autres personnes un an de vie sur Mars. Et comme il tient ses promesses, on lui a demandé de nous chanter Space Oddity. Ça donnait ça. Ground control to Major Tom. Regardez sur RTL.fr.
C'est vraiment lui qui chante. Ground control
to Major Tom. Bon d'accord, on a un peu négocié. On a un peu négocié pendant la pub. Il nous a menacé de quitter le studio, donc on a mis la version originale de David Bowie. Bon allez, on devient sérieux, Cyprien Verceux, parce que un an sous un dôme avec 5 autres cobayes, si j'ose dire, hein, donc il y avait 3 hommes, 3 femmes, pour voir comment vous réagissez. L'enfermement, la promiscuité, l'absence d'informations, de contact avec vos proches. Est-ce que vous ou l'un des autres cobayes a été tenté d'abandonner?
Je pense pas, non. Moi, personnellement, non. Et personne dans l'équipage a mentionné qu'il voulait partir.
Est-ce qu'il y a des moments où
ça craque
pas plus qu'à l'arrivée.
Comment ça?
Ce qui est pas bon signe. Vous étiez déjà fou en arrivant, c'est ça? Pour oser faire ça?
Non, mais non. Sérieusement, je pense qu'on avait tous envie de montrer que c'était possible de maintenir notre niveau de performance pendant la mission, pendant les conditions de vie d'une mission sur Mars. Et je pense que personne n'a eu l'idée d'abandonner.
Comment vous occupiez votre temps libre? Parce qu'il y avait des missions, il y avait des tests scientifiques à faire, mais il y avait aussi du temps libre, beaucoup.
Il n'y en avait pas beaucoup.
Ah, non, pas tant que ça, d'accord.
C'est que souvent on s'imagine qu'on était assis dans le dôme à se tourner les pouces et attendre que le temps passe, mais on cherchait plus à gagner du temps qu'à le faire passer. Parce qu'on avait, on avait nos propres projets de recherche, puisqu'on était tous scientifiques ou ingénieurs ou quelque chose qui s'en rapproche. Et il y avait la recherche pour laquelle on était cobayes.
C'est-à-dire, vous aviez des capteurs sur vous, vous aviez.
Ouais, on avait beaucoup de questionnaires déjà, avec des questions qui portaient sur ce qu'on avait fait pendant la journée, sur comment on s'entendait, sur comment on dormait, etc.
Sur votre santé aussi, j'imagine.
Sur notre santé, ouais, mentale et physique. On avait des capteurs, comme vous l'avez dit, autour de nos poignets, de notre cou, de nos cages thoraciques, qui mesuraient notre rythme cardiaque, notre activité physique, notre sommeil et même nos interactions. On avait ce qu'on appelait des badges sociométriques. Et ces badges étaient capables de savoir à qui on parlait, sur quel ton.
C'est flippant.
Qu'est-ce que ça révélait de vous, ça, Cyprien Verceux?
Bah écoutez, je ne sais pas encore parce que les résultats n'ont pas encore été publiés, mais on devrait le savoir, bientôt.
Trois hommes, trois femmes. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce que, tiens, première question, vous étiez célibataire avant d'entrer dans ce dôme?
Oui.
Tous les six?
Non, il y a deux personnes qui étaient mariées, pas ensemble, mais avec des gens en dehors du dôme.
Et en sortant du dôme, est-ce que certains sont repartis avec une femme, la femme de l'autre, ont divorcé? Est-ce que vous avez eu une amoureuse ou un amoureux?
Ouais, alors c'est quelque chose dont j'ai évité de parler jusqu'à maintenant parce que je voulais pas que ça détourne l'attention des aspects plus importants de la mission, mais effectivement,
ça en fait
partie. Effectivement, je pense que pour Liv, c'est quelque chose que je pouvais pas ne pas mentionner parce que ça influençait quand même beaucoup notre vie quotidienne. Donc oui, effectivement, je me suis rapproché d'une de mes coéquipières.
D'une des coéquipières, on dira pas son nom. Vous l'avez revue depuis?
Oui.
Bon, très bien.
Et c'est la promiscuité du dôme qui crée ça, pour parler de manière scientifique. Hein, là, on parle pas de votre vie privée.
Là, je pense que la promiscuité du dôme, ça favorise ce genre de choses, mais. C'est peut-être aussi le fait d'avoir des objectifs communs, d'avoir un peu le même caractère, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Je pense que quand on se retrouve dans ce genre de mission, on rencontre des gens qui ont certains traits de personnalité qu'on a aussi, nous, et qui ne sont pas tellement communs.
Ouais, vous racontez cette expérience, Cyprien Verseux, dans Vivre sur Mars, publié chez Michel Lafon. Est-ce que, finalement, ça ne faisait pas partie du programme, ça? Est-ce que dans ce que les organisateurs de cette mission d'un an avaient imaginé, il n'y avait pas, justement, trois hommes, trois femmes, forcément, il va se passer des interactions amoureuses?
C'était suivi. Disons qu'il y avait une équipe de chercheurs qui s'intéressait justement aux interactions entre les équipiers, que ça soit amoureuse ou conflictuelle ou professionnelle ou autre. C'était pas un aspect central de la mission. Et c'était pas... Je veux dire, tout le monde savait que c'était possible, mais c'était pas un sujet central.
Alors notre mission sur Mars touche à sa fin, mais comment se reconnecter à une vie normale, à une vie terrestre? On le raconte dans un instant sur RTL et on vous emmène aussi dans les coulisses du Louvre.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un an sur Mars, c'est l'expérience que notre invité a vécue. Bon, c'était sous un dôme basé à Hawaï, mais ça reconstituait ce que pourrait être la vie des astronautes sur la planète rouge. Cyprien Verseux, on imagine la scène, on va parler de la sortie. C'était quoi votre première sensation après un an?
La première chose qui m'a frappé, c'était une sensation de clarté. Et sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris après, en fait, c'est parce que pendant un an, quand j'étais dans le dôme, je ne pouvais pas voir à plus de 10 mètres devant moi. Simplement parce qu'il y avait les parois du dôme. Et quand j'étais à l'extérieur, j'avais toujours une visière. Donc avec des égratignures, des saletés, etc. Et pour la première fois depuis un an, je pouvais voir à 10 km devant moi, sans rien entre moi et le paysage. Et
comment on se réhabitue à côtoyer plein de gens dans la rue, à aller faire ses courses aussi, tout simplement?
L'épreuve du supermarché.
Ouais, voilà, c'est exactement ça.
C'est pas difficile de se réadapter, mais c'était. Donc j'étais bien dans le dôme, mais j'étais quand même content de retrouver l'extérieur, de pouvoir à nouveau être à l'air libre, d'être dans le vent, d'être au soleil, de pouvoir parler à mes proches.
Ça s'appelle la liberté? La liberté, non? Excusez-moi, j'ai plus de voix.
La liberté, le mot qui fit perdre sa voix à Sidonie Bonnec.
La liberté.
Ouais, on peut appeler ça comme ça, quoi, mais c'était vraiment retrouver des choses toutes simples qui m'avaient manqué pendant un an.
Alors c'était quoi? C'était à part le steak, la viande rouge.
Rien qu'être à l'air libre, pouvoir nager, pouvoir être seul. Pouvoir parler à mes proches, pouvoir changer d'endroit, être autonome. Quoi d'autre?
La liberté.
La liberté. Et,
c'est ça. Hein.
Dernière question, les cinq autres, vous êtes restés potes? Est-ce que vous êtes devenus amis, tiens?
Je suis devenu ami avec une partie d'entre eux. Avec trois de mes coéquipiers, on est devenus très très proches. Avec les autres, un peu moins, mais on a toujours gardé des relations au moins professionnelles.
Et vous n'avez pas d'ennemis irréductibles?
Non.
Bon, ça s'est bien passé. Un mot de vos projets? Une autre bulle à venir?
J'espère, ça fait longtemps que j'espère partir en Antarctique. Et je préfère rien dire pour l'instant parce que rien n'est sûr, mais j'espère que ça arrivera
très
bientôt.
Si vous y allez, vous revenez chez nous raconter, hein, avec curiosité.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Cyprien Verseux. Vivre sur Mars, c'est le titre de votre livre qui est publié chez Michel Lafon. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous écoutez RTL.